Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, avez-vous décidé d'arrêter de fumer? Marion Adler vous a-t-elle convaincue? Allez, essayons tous ensemble. C'est possible si vous trouvez le traitement sur mesure, que ce soit les patchs, inhaleurs de nicotine, spray ou autres médicaments. Le traitement donc qui vous permettra de ne pas souffrir du manque. La cigarette, dans ces cas-là, deviendra un lointain et puant souvenir. Les tabacologues peuvent vous aider, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Aujourd'hui, nous avons donc choisi de parler des enfants précoces. Un enfant sur 40 les ne bénéficie bénéficiant pas de prise en charge spécifique, cette différence, souvent incomprise, laisse bien souvent les parents désemparés et l'enfant en proie à des difficultés pour trouver sa place. Alors, quelles sont les particularités d'un enfant à haut potentiel? Pourquoi est-il susceptible d'être entravé dans son parcours? Comment le soutenir et comment l'accompagner? Trois invités aujourd'hui pour répondre à nos questions et je vais commencer par Vincent tout d'abord. Vincent, bonjour.
Bonjour.
Sois le bienvenu, Vincent.
Ah oui, ben je suis vraiment très contente d'être ici.
Et ben je suis très contente de te recevoir, j'étais très impatiente aussi de faire ta connaissance. Tu as 9 ans et demi, Vincent.
Exactement.
Et tu es ce que l'on appelle un enfant précoce. Alors quand on parle d'enfant précoce, qu'est-ce que ça t'évoque à toi?
Moi, ce que ça m'évoque, c'est quelqu'un qui est comme un peu le contraire des gens normaux. Ils ont ce que les gens normaux n'ont pas, mais ils n'ont pas ce que les gens normaux ont.
C'est-à-dire que selon toi, quand tu te compares, hein, ou quand tu regardes un petit peu comment fonctionnent les autres enfants de ton âge, t'as le sentiment qu'ils ont des choses que tu n'as pas, mais que tu as aussi certains traits de caractère, certaines qualités qu'ils n'ont pas.
Exactement, mais en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que les personnes, mais avec un brin de créativité et d'imagination à ma guise, en fait.
C'est bien ça. Et oui. Ça, depuis que tu sais que t'es un enfant précoce, ça a changé beaucoup de choses pour toi?
Oui, vraiment, ça a changé ma façon de voir les choses, puisque je me suis dit, ah oui, d'accord, donc en fait, si je suis comme ça, c'est parce que je suis spéciale, en fait. Je suis pas quelqu'un de normal.
Tu as compris ta différence?
Oui, exactement.
Parce que cette différence-là, tu la ressentais avant, mais t'arrivais pas à mettre un mot dessus?
Oui, j'arrivais pas à comprendre ce que j'avais et je me disais tout simplement que j'avais des problèmes, quoi.
Oui, eh ben justement, ces mots-là, les fameux problèmes. Alors, t'es aussi un petit garçon, non seulement précoce, mais enroué. Donc, on le dit à nos auditeurs, si t'as besoin de tousser et tout, tu t'inquiètes pas. Hein. S'il n'y a pas de problème, on est tranquille, on est entre nous à la radio. Alors, justement, on va parler de tout ça, parce qu'il y a des problèmes, et puis il y a aussi des facilités. Il y a ce que je disais, ce n'est pas si simple, le parcours d'un petit garçon comme le tien et des enfants précoces en règle générale. Tu n'es pas venu tout seul. À tes côtés, ta jolie maman, Julie. Bonjour, Julie. Soyez la bienvenue.
Merci
d'être avec nous, en tout cas, et puis merci d'avoir répondu à notre appel à témoins et puis
merci
de nous permettre de faire la connaissance de Vincent. Et puis avec vous, Fabrice Bach, vous êtes psychologue, cognitiviste et spécialiste du développement de la pensée de l'enfant et de l'adolescent. Ça en fait quand même, hein, des passions.
Monde, oui.
Et vous êtes auteur de l'ouvrage La précocité dans tous ses états aux éditions L'Harmattan. Alors, c'est intéressant, Fabrice Bach, la façon dont Vincent vient de nous décrire une partie de sa vie avant le diagnostic. J'avais le sentiment d'avoir des problèmes et en fait, tout à coup, l'idée de la compréhension finalement de la différence de Vincent lui permet aujourd'hui d'être un petit garçon épanoui avec, j'imagine, une vie adaptée, mais Julie nous en parlera.
Oui, complètement. Je crois que ce qui est important à avoir en tête, très tôt, ces enfants constatent qu'il y a une différence avec les autres, qu'ils ne s'expliquent pas. Il constate qu'il y a des choses qui fonctionnent autrement, mais déjà dès la maternelle. Si en l'occurrence, les enfants se bagarrent, je veux tel jouet, je le prends, je te mets un coup de râteau sur la tête, et là vous avez un enfant au potentiel qui va dire mais me frappe pas, ça fait mal. L'autre enfant recommence. Arrête, je te dis que ça me faisait mal. Et en fait, ce que attend l'autre enfant, c'est qu'on lui rende un coup de pied, comme feraient les autres. Sauf que l'enfant au potentiel n'est pas dans ce rapport-là. Lui, il est déjà dans un rapport de réciprocité. Et très tôt, entre la naissance et 2 ans, il y a déjà des spécificités qu'on peut constater. Des choses assez fascinantes. C'est-à-dire, ce qu'on a pu constater, c'est que très tôt, ce sont des enfants qui vont chercher à avoir une autonomie, par exemple, au niveau de la nourriture. Ils ont envie de se nourrir seuls. Donc ils vont chercher à prendre la cuillère, mais déjà à prendre le biberon avec leurs mains pour essayer de le tenir. Mais ils peuvent pas avec leurs petites mains. Très rapidement, on va constater ensuite, au niveau du langage, un langage qui apparaît d'une façon très rapidement structurée. Avec cette particularité, c'est que de poser très vite des questions et des questions qui visent toujours à approfondir. Une nouvelle question l'entraîne une deuxième, une troisième, ce qui commence à devenir très éprouvant pour les parents.
Alors, on va se tourner justement vers la maman. Julie, est-ce que vous avez senti... Bon, Vincent a des frères, hein,
oui,
également.
Oui, il a un petit frère, oui.
Voilà, il a un petit frère. Est-ce que vous avez senti que Vincent avait un comportement singulier, même déjà tout petit?
Oui et non, c'est vrai que Vincent était tellement volontaire, avait une telle envie de découvrir le monde et les choses autour de lui. Mais justement, effectivement, Vincent posait énormément de questions, il était très vif. Et moi, c'est vrai que ça me correspondait très bien comme enfant. Je l'abreuvais de réponses, voilà. Ce qui pouvait énerver certains parents. En revanche, c'est vrai que c'est tout de suite, comme Monsieur Bach l'a dit, l'a très bien dit d'ailleurs, dès le jardin d'enfants, on a commencé à voir apparaître des différences et... vraiment très rapidement, les enseignants ou les instituteurs se posaient certaines questions, voyaient bien que Vincent répondait pas de la même façon que les autres, se demandaient s'il était en difficulté, en souffrance, parce qu'il refusait en fait simplement de faire les mêmes exercices que tout le monde. Et je pense que tout de suite, c'est des enfants qui se sentent effectivement très différents et qui peuvent vivre cette différence-là comme étant très... très perturbatrice en fait dans leur construction identitaire,
handicapante. T'as eu le sentiment, toi, Vincent, quand tu étais petit, que t'avais un petit peu plus de mal que certains à te lier d'amitié, à faire connaissance, à avoir des copains?
Oui, beaucoup, mais même avant là, avant que je me rende compte que c'était pas un handicap, vraiment, je me sentais encore mal dans ma peau. Je me disais qu'avant qu'être un enfant précoce, c'était juste un vrai handicap qui causait problème dans la vie.
Et là aujourd'hui, comment tu considères ça? Pour toi, c'est une chance ou c'est un handicap?
C'est en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça rajoute des avantages et des désavantages.
Donc c'est à toi de connaître aujourd'hui à la fois les forces et les faiblesses qui vont te permettre de grandir et de t'épanouir.
Oui, c'est ça, exactement.
Est-ce que tu es un petit garçon épanoui?
Oui et non. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire dans ma vie, selon moi.
T'es pas... Oh ben ça, oui. J'imagine. Et t'es pas à l'école?
Non, je fais l'école à la maison.
Tu fais l'école à la maison, parce qu'il a fallu adapter en fait ton rythme scolaire. Il a fallu s'adapter, Julie, pour que Vincent puisse aussi acquérir toutes les connaissances dont il a envie et besoin, que l'école ne pouvait pas lui apporter. Et puis en même temps être dans un cocon, c'est ça?
Non, pas vraiment dans un cocon. Au contraire, en fait, c'est des enfants qui peuvent se retrouver en situation de très très grande difficulté à l'école.
Oui.
Et qui s'abîment énormément.
Mmh.
Et à un point tel qu'à un moment, on doit... Je pense, pour ma part, j'ai souhaité le reconstruire. Donc, c'est vraiment un processus, au contraire, de reconstruction et d'ouverture sur les autres, parce qu'on n'est jamais aussi seul qu'au milieu d'une foule quand on se sent seul.
Bien sûr.
Et cette socialisation forcée de l'école, à un moment, pour un enfant qui est en très, très grande difficulté, peut devenir ingérable et intolérable pour l'enfant. Voilà. Donc, c'est plutôt, au contraire, un souhait de faire grandir l'enfant en lui offrant vraiment les armes nécessaires à sa vraie construction. Voilà.
Vincent, t'as beaucoup de copains, toi?
Pas beaucoup, mais si j'en ai, c'est des vrais.
Ah, ça c'est bien. Donc t'as vraiment déjà la notion d'amitié. Tu veux bien être mon copain là jusqu'à 16h?
Oui.
On est potes?
Oui.
Bon, super. On est potes et puis avec tous nos auditeurs aussi, parce qu'on est nombreux, tu sais, donc à partager cette conversation. Si vous souhaitez nous poser des questions, vous pouvez appeler le 3210, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook, vous pouvez d'ailleurs aller sur rtl.fr, on vous fait un signe comme ça devant la caméra. On est ensemble jusqu'à 16h, nous sommes en direct, le temps de soigner le petit rhume de Vincent, et on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Fabrice Bach est avec nous aujourd'hui. La précocité dans tous ses états, à la recherche de son identité, aux éditions L'Harmattan. Fabrice Bach, vous êtes avec nous jusqu'à 16h pour nous expliquer ce qu'est la précocité chez les enfants. À vos côtés, Vincent, mon nouveau meilleur copain, qui a 9 ans et demi, qui est donc, on appelle un enfant à haut potentiel, mais avant tout, un garçon super sympa. Et ta maman, Julie, qui t'accompagne. Vincent, tu me disais que c'est fou parce qu'il y a ton chien qui nous écoute.
Oui, en fait,
Comment il s'appelle ton chien?
Julius.
D'accord.
Et
il
a le même âge que moi. Et lorsqu'on le laisse à la maison, pour pas qu'il s'inquiète, on lui laisse tout le temps la radio.
D'accord.
Normalement, on lui laisse France Inter.
mais maintenant, RTL. Voilà, maintenant, il connaît 104.7. Et comme c'est un chien précoce, peut-être aussi, il met la radio tout seul, il s'installe tranquille. Et là, il s'est servi un soda. Et il est en train de nous écouter. Donc, ça, c'est super. Donc, on salue ton chien. Bon, on va revenir quand même à nos conversations sérieuses et puis qui sont des conversations d'intérêt et de curiosité au sujet des enfants précoces. Comment est-ce qu'on peut véritablement, Fabrice Bach, définir la précocité d'un enfant? Alors, comment ça se diagnostique? Comment ça se calcule tout ça?
Alors, on parle déjà effectivement d'une précocité intellectuelle. Ce sont des enfants qui n'ont pas forcément une intelligence supérieure aux autres, loin de là, mais une intelligence qui fonctionne différemment. Ce qui a été identifié, ce qui est très intéressant, parce qu'on a encore certaines personnes qui pensent que c'est une vue de l'esprit ou des psychologues que trouver des précoces de partout.
C'est ça.
Non, c'est absolument pas le cas. Des études de neurologues ont montré que le cerveau de ces enfants fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre la zone frontale et pariétale qui est beaucoup plus intense que chez l'individu unique, enfin chez l'individu standard. De la même façon, la substance blanche, c'est-à-dire qui fait les liens entre les différentes zones, est plus riche chez ces enfants. Donc en fait, ils vont être en mesure de fonctionner avec une pensée divergente, c'est-à-dire de cumuler plusieurs éléments au même moment. D'une façon très pragmatique, très tôt, ce sont des enfants qui, à 4-5 ans, vont fonctionner en simultané. Ils peuvent traiter 3 à 4 informations au même moment. Ce qui est problématique, c'est que notre école fonctionne en séquentiel, c'est-à-dire une information après l'autre.
D'accord.
Et chez ces enfants, ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné. Donc cette précocité, c'est effectivement un fonctionnement intellectuel qui est différent, mais il n'y a pas que cela. C'est aussi un fonctionnement émotionnel et affectif qui est différent. C'est-à-dire que très tôt, ce sont des enfants qui vont chercher des guides. Parce qu'ils vont tester très tôt la limite des guides parentaux. Quand je dis très tôt, c'est pas 14-15 ans. Chez eux, c'est à 5-6 ans. Ils ont vu la limite des parents.
Ça se traduit par quoi ?
Eh bien, à un moment donné, ils posent des questions aux parents et les parents n'ont pas toutes les réponses, fort heureusement.
Mmh. On les a jamais, toutes.
Voilà. Et donc, ils vont se tourner vers d'autres adultes. Et se tourner vers d'autres adultes, il y a un endroit extraordinaire pour eux, c'est l'école, où on apprend énormément de choses. Et là, tout dépend des réactions qui vont se présenter en phase 2. Donc, par rapport à cette précocité, effectivement, pour pouvoir la définir, il y a tout un ensemble de critères qui existent, qui sont listés dans de nombreux ouvrages, mais toujours est-il que, au-delà de ces critères, ce ne sont que des suspicions, il faut effectivement faire une évaluation psychométrique, ce qu'on appelle le fameux QI, le quotient intellectuel. Donc, pour les plus petits, de 2 ans et demi, aux alentours de 6 ans et demi, ce qu'on appelle la WIPSI. On va être bientôt à la 4e version, là, début 2014. De 6 ans et demi, jusqu'aux alentours de 17 ans et demi, c'est le WISC-4. 4e version du test, et à l'âge adulte, c'est la VICE. Et donc, cette évaluation va permettre d'identifier l'efficience de la pensée de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce que la pensée de l'enfant peut produire. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, puisque l'intelligence, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un mode de fonctionnement à part entière. On va y adjoindre ce qu'on appelle des évaluations de type cognitive, pour comprendre aussi comment l'enfant utilise sa pensée, et pas uniquement ce qu'il peut produire.
Tu te souviens du test que tu as passé, toi, Vincent ?
Oui, on m'a fait...
Qu'est-ce qu'on t'a demandé ?
On m'a fait faire bouger des cubes avec une demi-couleur sur chaque cube.
Oui.
En fait, en diagonale, chaque triangle de la diagonale avait une couleur.
D'accord.
Soit blanc, soit rouge. Et on était chronométré et le plus vite possible, on devait reproduire une image avec les cubes qui étaient inscrits sur un papier.
Et ça t'a semblé difficile ?
Non, pas beaucoup.
Non ? Donc, vous vouliez réagir, Fabrice ?
Oui, c'est intéressant. Juste par rapport à ce que disait Vincent, donc l'évaluation du QI, c'est tout un ensemble d'épreuves. On a effectivement, comme il vient de le dire, des épreuves chronométrées, il faut aller vite, il y a énormément d'autres choses. Et pour restituer un petit peu, donc l'évaluation qui permet de définir que l'enfant présente une précocité, un haut potentiel, se situe à 130. Sachant que la norme du QI, pour la majorité de la population, va être entre 90 et 110.
Est-ce que tu connais le tien, toi, Vincent ?
Le mien Oui. Il change tout le temps, mais celui que j'avais eu dans le test était de 130, si je me souviens bien.
Oui, c'est exactement ça. En fait, il a fait un seul test.
Oui, c'est ça. C'est juste pour... Donc, 130 de QI. Ça change quelque chose pour toi ou finalement, ça n'a pas d'importance ?
Moi, ça n'a pas vraiment d'importance, comme vous venez de dire. C'est que Je me sens juste moi-même, en fait.
Voilà, et ça, c'est bien que tu te sens toi-même. Julie, vous vouliez dire quelque chose?
Tout à fait, parce que souvent, les gens, justement, s'arrêtent au QI.
Oui, c'est pour ça que je pose la question.
Exactement, et c'est vrai que ce qui est hyper important de préciser, c'est que dans le quotidien, jamais on ne parle de cette mesure-là, ou que ce soit même du test de QI. Ouais. On l'a fait une fois, c'est passé. Ouais. Ce qui est surtout intéressant, c'est de comprendre le fonctionnement de l'enfant, la pensée de l'enfant, et surtout voir, parce que le test, c'est pas juste un chiffre, aussi toute une gamme de mesures qui permettent de comprendre comment le cerveau de l'enfant fonctionne et de voir ses facilités, mais aussi ses difficultés. Et ça, c'est très très important pour ensuite pouvoir mettre un suivi adapté.
Et je crois que c'est exactement ça. Un bilan n'est jamais une finalité en soi, c'est un point de départ. Un point de départ pour répondre à une question. Pourquoi cet enfant a des difficultés? Pourquoi Vincent, à un moment donné, s'est pas senti à l'aise avec les autres? Et on va explorer cette piste et regarder ce qu'il en est. Effectivement, faire un test psychométrique pour savoir si l'enfant est précoce, c'est quand même ramener ça à peu de choses. Aujourd'hui, les évaluations permettent d'aller beaucoup plus loin, de donner des axes directeurs pour les parents, pour comment savoir accompagner leurs enfants, pour pouvoir ensuite aussi guider notre système pédagogique et les enseignants qu'ils vont croiser sur leur route, sur comment bien se mettre à leur portée et en phase avec eux. Puisqu'encore une fois, on a trop souvent l'image caricaturale de l'enfant précoce, celui qui sait tout, celui qui apprend tout. Non, c'est pas ça du tout. Ce sont des enfants qui ont une capacité à analyser, à aller très loin dans leur pensée, parfois trop loin. Effectivement, à l'adolescence, ça peut aussi générer d'importantes souffrances. Quand cette pensée va trop loin, combien d'entre eux pensent qu'ils sont fous à un moment donné? Parce qu'ils pensent à des choses que les autres ne pensent pas. Et quand à un moment donné, on peut leur expliquer que non, ils ne sont pas fous. Simplement leur pensée qui fonctionne différemment, mais c'est un mieux-être pratiquement immédiat.
Alors, dans un instant, avec toi, Vincent, justement, on va regarder dans le rétroviseur. Et puis, tu vas me raconter comment c'était en classe, parce qu'il paraît que c'était pas toujours évident, finalement. Et que tout le travail, entre guillemets, que tu fais avec ta maman, que ta maman a un peu une sorte de reconstruction, eh bien, tu vas nous raconter comment ça se passe, d'accord?
D'accord.
T'es toujours bien sur RTL?
Ah oui.
Il y a ton chien qui nous écoute. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
RTL. Toujours avec vous. Sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Un petit clin d'œil à Patrick qui nous a appelé de Strasbourg. Lorsque j'entends l'émission et que j'écoute Vincent, je retrouve un petit peu les réactions de mon fils Oscar qui a 9 ans et demi. Quand doit-on réagir et quand doit-on justement faire tester son enfant, Fabrice Bach, quand on... plus tôt la précocité est détectée, mieux c'est. Parce qu'on s'adapte forcément et comme on le disait, le test est un point de départ pour une nouvelle vie.
Plus tôt on va pouvoir accompagner son enfant, plus tôt on va pouvoir apporter un éclairage et être au plus proche de son évolution et de son développement.
Est-ce que le haut potentiel est définitivement acquis?
Alors, oui, alors c'est une très grande question. Il y a effectivement une variabilité du QI qui est présente, de 5 à 6 points, en plus ou en moins. Mais globalement, oui, c'est posé. La seule chose qui permettrait de déstructurer la pensée, on a deux éléments, ou un choc affectif majeur, ou alors effectivement un virus qui attaquerait le cerveau, et là on perd certaines compétences. Mais en dehors de cela, non. Quand on a été un enfant précoce, on va rester un adulte présentant une douance. Ça ne disparaît pas en cours de route.
Mais à partir du moment où ça a été diagnostiqué, où on a trouvé son chemin et ces fameux guides dont vous parlez dans votre ouvrage, la vie est certainement beaucoup plus légère puisqu'on sait de quoi on parle. Alors, tu le disais en début d'émission, Vincent, c'est-à-dire que pour toi, être précoce, être un enfant à haut potentiel, c'est avoir certaines choses que les autres n'ont pas, mais en même temps, parfois aussi, se sentir un peu démuni face à certaines situations et sentir que les autres ont des richesses que tu n'as pas comme ça à portée de main. Quels sont selon toi les avantages et quels sont les inconvénients à la précocité?
Alors, les avantages de la précocité, selon moi, sont que on est vraiment très créatif.
Oui.
C'est que on va faire les choses vraiment différemment à notre guise, comme je vous ai dit tout à l'heure, justement. Comme, par exemple, une fois en classe, on nous demandait de dessiner une pomme. On avait un modèle, on devait la redessiner. J'ai dessiné la pomme, comme tout le monde. Mais les autres personnes dessinaient ce qu'ils voyaient vraiment. Contrairement à moi, je rajoutais des choses sur la pomme.
Qu'est-ce que t'as rajouté sur la pomme?
Je rajoutais des bonhommes sourires, des soleils.
t'as customisé ta pomme.
Exactement.
D'accord. Alors ça, c'est l'aspect créatif. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que t'as de l'imagination. Ça veut dire que dans ta tête, tu es libre, tu repousses aussi les limites. Quels sont parfois les inconvénients? Quelles sont les difficultés auxquelles tu peux être confronté?
Les difficultés où l'on peut être confronté, c'est surtout en rapport avec l'école.
Oui.
À l'école, puisque c'est l'école n'est pas est adaptée pour les personnes normales et pas pour les enfants précoces. Les enfants précoces n'arrivent juste pas à se frayer un bon chemin qui leur permet d'avancer.
Alors ça veut dire qu'en fait on n'a pas répondu à tes besoins, on n'a pas répondu à tes questions. T'as eu le sentiment d'être un petit peu broyé, un petit peu perdu dans la foule de l'école.
Exactement, et aussi que les personnes de mon âge, les élèves, eux sont pas forcément tout le temps précoces et des fois même s'ils sont pas précoces ils peuvent me comprendre mais c'est rare.
Dans quelles circonstances est-ce que tu t'es senti différent Vincent?
Comme disait Fabrice tout à l'heure, quand on me frappe, on demande tout le temps un autre coup, alors que moi j'ai pas envie de me battre. Moi, j'ai plutôt côté pacifique, quoi.
Ouais, en même temps, je comprends. Et dans les échanges avec tes camarades, avec tes copains, est-ce que vous aviez les mêmes centres d'intérêt? Est-ce que vous aviez les mêmes envies dans les cours de récré? Est-ce que vous aviez les mêmes discussions? Vous regardiez les mêmes programmes à la télé?
Non, pas ça. Et même que puisque j'étais tellement différent des autres personnes, ils cherchaient à me rejeter. Oui. Ils me faisaient des sales coups et même que j'avais hâte de rentrer en classe parce que c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité en fait.
T'as été malheureux dans la cour de récréation, Vincent ?
Oui, en fait tout ce que je faisais c'est que je m'asseyais et j'attendais que ça passe. Je faisais rien en gros.
T'avais du chagrin ?
Oui.
T'en parlais à ta maman de ce chagrin-là ?
Oui.
Julie, vous vous êtes rendu compte que Vincent avait du mal justement dans le système scolaire dit classique, hein, oui. Que l'on propose à tous les enfants.
Oui, et pendant longtemps. Et je pense que c'est aussi difficile pour les parents que pour les enfants.
Et oui.
Parce que même si le parent comprend, le parent veut accompagner l'enfant. Il y a un moment où on peut pas être présent partout et à l'école on peut pas y être et le système scolaire a aussi une limite aussi en termes de possibilité de disponibilité. Donc l'enseignante peut pas non plus être partout, la maîtresse même si elle est de bon vouloir hein, parce que il faut pas non plus leur jeter la pierre complètement. Il y a de formidables personnes qui sont dans le système scolaire mais qui au bout d'un moment peuvent pas accompagner l'enfant à 100%, c'est pas possible.
Ça veut dire que les instituteurs ou maîtresse de Vincent étaient au courant sa situation.
Dès le départ, donc j'ai tout vu. Hein. J'ai eu des réactions de rejet complète et total à d'autres enseignants, donc d'autres maîtresses ou ton maître d'ailleurs l'année dernière ont été formidables, ont tout de suite cherché à mettre en place une stratégie pour aider Vincent. Tout à l'heure on parlait de répétition, c'est des enfants souvent qui vont, parce qu'on parle aussi de ce que c'est que la précocité, mais il y a aussi des pistes de solutions qui peuvent être mises en place au sein de l'école. Donc un maître formidable que je salue s'il écoute l'émission, qui avait tout de suite cherché à mettre en place une structure d'apprentissage pour Vincent qui évitait les répétitions, donc faire 10 fois le même calcul, c'est
voilà l'ennui quoi, qui évite l'ennui.
Mais surtout au moment un rejet de à partir d'un certain moment un rejet complet et total de l'école parce que voilà. Mais voilà, donc c'est vrai que dans le rapport à l'autre, ces enfants s'abîment souvent. Ce qui est important, c'est justement de leur permettre de se construire et de socialiser avec des gens, avec d'autres jeunes qui sont à la fois comme eux, parfois, mais aussi être dans d'autres cercles. Par exemple, il fait de l'escrime, Vincent, où il n'y a pas que des enfants précoces, et aussi d'être bien à l'intérieur d'un groupe qui n'est pas
important.
Forcément la classe.
C'est très important d'être différent, mais d'être au milieu de tous aussi. Toi, Vincent, t'as pas envie d'être dans ton coin avec que des enfants comme toi. T'as envie d'avoir des copains de tout niveau, de tout centre d'intérêt. T'as cette curiosité là aussi.
Et même qu'avant de Je faisais trop, je cherchais même pas à être avec les enfants précoces, puisque comme moi, n'étais pas compris par les autres personnes. Je cherchais tout le temps à être dans la bande de leaders.
Bah oui, forcément. Mais ça c'est un point commun qu'on a tous, évidemment, quand on est dans une cour de récré, qu'on veut être accepté. On se retrouve dans un instant. On a parlé là du lien aux autres, des émotions et tout. Et puis on va parler aussi des résultats scolaires. Parce qu'il paraît que quand on est enfant précoce, on n'est pas forcément non plus systématiquement un très bon élève. Ça va l'école pour toi ?
L'école pour moi... Présentement ça va, enfin je fais l'école à la maison, mais avant ça...
Les résultats scolaires.
Les résultats scolaires, oui en fait, mais la seule chose qui va, c'est ce qui va pas, c'est qu'en fait à chaque fois c'est tout le temps le niveau comportement, puisque les maîtres ne comprennent pas
On en parle dans un instant, tu vas nous parler de ta nouvelle maîtresse, parce qu'elle s'appelle, c'est ta maman, donc tu vas nous dire si c'est une bonne maîtresse ou pas. Allez, à tout de suite, en direct sur RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Fabrice Bach, précocité n'est pas forcément synonyme de réussite scolaire. Un tiers des enfants surdoués sont actuellement en échec scolaire. Alors, pour quelle raison?
En fait, notre système pédagogique a beaucoup de difficultés à s'adapter à eux. D'une façon très pragmatique, ils ont un développement qui est en décalé par rapport à notre système pédagogique. Entre 3 ans et 5 ans, l'école va se centrer sur les habiletés sociales.
Oui.
Ces enfants sont centrés sur la compréhension du monde. Ils vivent dans un monde qui est extrêmement riche et dont il faut pouvoir saisir le sens. Quand on arrive en CP, l'école se centre sur les acquisitions, eux se centrent sur les habiletés sociales. On est complètement décalé à un moment donné. Et le plus gros souci qui va se présenter, c'est qu'effectivement, comme c'était évoqué précédemment, le fait de répéter systématiquement, ces enfants s'ennuient très rapidement. Du coup, on a 10 additions à faire, j'en fais 2 justes, les 8 suivantes sont fausses parce que je ne fais plus attention. Je sais que je sais faire. Comme me disait un jour un de mes patients, mais pourquoi je vais montrer au prof que je sais faire? Moi, je sais que je sais faire. Pourquoi je dois lui prouver à lui? Et c'est là qu'à un moment donné, on va avoir énormément de décalage. Mais surtout, je crois que, j'insiste sur cet élément, le haut potentiel, ça n'est pas qu'une compétence intellectuelle. Oui. C'est aussi un fonctionnement psycho-affectif qui est complètement différent, avec des quêtes existentielles qui apparaissent très tôt et qui s'accentuent à l'adolescence. Et l'importance de trouver des guides, des personnes qui vont pouvoir accompagner le jeune et aussi les parents.
Voilà, le plus tôt possible. Julie, quand avez-vous décidé, avec l'accord de Vincent, de le déscolariser et de faire l'école à la maison?
En fait, il y a eu deux périodes de déscolarisation. Donc, une première qui avait fait suite à une très très mauvaise expérience à l'école, qui s'était soldée par même une marque de violence de la part d'un enseignant. Donc, il faut aussi dire que justement, pour les enseignants, ça peut aussi atteindre certaines limites.
Oui.
Voilà, un enfant précoce dans le système scolaire actuel, c'est très très difficile. Pour l'enfant, mais aussi pour l'enseignant, parce qu'ils n'ont pas les outils, simplement, pour répondre à cette problématique. Et donc, Vincent, je l'avais déscolarisé parce qu'il était visiblement en très grande souffrance. Et il s'est épanoui. Très rapidement, c'est un enfant qui s'est épanoui. Il est redevenu lui-même, simplement. Et c'est formidable parce que je ne pensais plus arriver après avoir vu tous les psychologues, tous les ergothérapeutes, orthophonistes, et le simple fait de le déscolariser a solutionné une grande partie de ses problématiques. Suite à quoi, j'ai quand même réessayé le système scolaire parce que je trouvais que c'était important. Et le but était pas non plus de le mettre à l'écart de la société, mais vraiment très rapidement cette année, parce qu'on vient une nouvelle fois de réentamer une période de déscolarisation. Donc très rapidement, les problèmes sont réapparus, avec encore plus de force, de puissance. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est des enfants qui se retrouvent en très très grande souffrance. Donc ce n'est pas que des petites idées noires, c'est des enfants qui sont en très très grande
souffrance. Alors justement, parlons de cette souffrance psychologique. Oui. Vincent, tu veux bien qu'on en parle?
Oui.
Hein, quels étaient les symptômes de Vincent?
Je vais pas aller tout au bout, mais vraiment, c'est des idées plus que noires, des idées qui normalement qu'un enfant a pas forcément
avoir.
À cet âge-là. Voilà, voilà. Il n'y a plus envie de continuer à vivre, et ils le disent. Et on arrive à des situations qui sont très problématiques, qui sont très blessantes
pour
l'enfant.
Ce qui est troublant, c'est qu'ils vont très loin dans leur raisonnement, et c'est extrêmement logique. Je souffre tellement, comment arrêter la souffrance? C'est logique, si je ne suis plus là. Il n'y a plus de souffrance. Et c'est très troublant pour des parents que d'entendre ça, d'avoir un enfant en bas âge qui commence à poser cet élément sur la table en disant, ben voilà, moi, ce que je pense. Et je crois que, on évoquait à l'instant cette scolarisation à domicile, c'est aussi un élément important. Quand certains enfants atteignent certains seuils de souffrance, il faut pouvoir les retirer pendant un temps, pour leur permettre de se reconstruire et de pouvoir repartir ensuite dans un deuxième temps. On parle de la précocité, mais il y a plusieurs formes de précocité. On a des enfants qui vont beaucoup plus fonctionner sur des processus intuitifs. C'est assez impressionnant. Une sorte de fulgurance dans leur pensée, ils ont la réponse, ils lisent l'énoncé, ils donnent la réponse immédiatement. Ça marche très bien en primaire. Au collège, plus du tout. Puisqu'on va leur demander d'expliquer comment ils ont fait.
C'est-à-dire que leur force devient handicap à un moment donné.
Exactement. Et on a des enfants qui fonctionnent beaucoup plus, en minorité, sur des processus déductifs. Face à un problème, ils vont envisager toutes les solutions possibles et envisageables pour le solutionner. Logiquement, c'est imparable. Temporellement, c'est ingérable.
Oui.
Ils sont toujours hors cadre. Dans les deux cas, on se retrouve en difficulté dans notre système pédagogique.
Alors, si toi, tu as été en souffrance, Vincent, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, tu es à la maison.
Oui.
Oui, comment ça se passe alors, ton quotidien? Maman te lève le matin comme tous les enfants, tu te lèves à la même heure. Et c'est cours à ton bureau. C'est adapté aussi?
Oui, Comme par exemple, moi, ce qui me permet beaucoup de réfléchir, sauf quand je dois vraiment le faire à l'écrit, ce qu'on va faire, c'est que en fait, j'ai tout le temps besoin de bouger pour réfléchir et de.
C'est-à-dire que t'as besoin d'être debout, t'as besoin de marcher.
Oui,
t'as
besoin d'être debout, de marcher, de courir ou même de chanter en même temps. Ouais.
Et donc tu fais les cours en chanson en fait.
Parfois, oui,
c'est ça. C'est-à-dire que vous favorisez l'apprentissage de Vincent et c'est du sur-mesure en fait. Vincent peut s'exprimer.
Et c'est pas de l'hyperactivité, attention, ça rien à voir. C'est simplement une hyperstimulation intellectuelle. Combien de fois on entend à l'école, bon, vous le faites le vide sur sa table pour qu'il puisse travailler, mais c'est abominable pour ses enfants. Il y a un blanc d'un seul coup. Et eux, ils vont travailler avec la radio qui passe dans le fond, avec, effectivement, en train de dessiner, et ils apprennent leur leçon à ce moment-là, en faisant plusieurs choses au même moment. Et c'est ça qui est troublant, que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre.
Vincent, elle est comment ta maîtresse ?
Ma maîtresse, laquelle ?
Bah, ta maman.
Ouais, d'accord.
Si tu devais lui donner une note. Non mais c'est intéressant parce que Julie, que vous êtes maman, mais vous vous chargez aussi de l'enseignement de votre fils. Oui. Donc ça n'était pas forcément quelque chose auquel vous étiez préparée.
En même temps, c'est pas très très différent. Je rigolais avec une copine cette semaine en disant que c'est pas très très différent de lui demander de faire un exercice de maths que de lui demander de ranger sa chambre. Donc il y a des fois où il y a pas envie. Voilà.
Donc c'est la même chose. Donc c'est normal.
Okay. Exactement. C'est une extension de la vie.
On va se retrouver dans un instant. Beaucoup de parents justement s'interrogent sur la scolarisation à domicile. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Julie, vous avez choisi donc un jour de déscolariser Vincent, et pourtant en fait il n'est pas déscolarisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans le système scolaire classique, mais il a l'école à la maison. Voilà, c'est vous c'est vous qui vous chargez de l'instruction de Vincent. On l'a compris, il a la liberté aussi d'être lui-même et de pouvoir digérer les informations, apprendre avec, je dirais, sa différence et ses capacités. Vous devez rendre compte de cet enseignement. Comment
tout
ça se passe? C'est encadré?
Tout à fait, c'est très encadré. Donc évidemment. Bon, il y a l'inspecteur de l'académie qui vient faire un bilan, une évaluation de l'élève, qui vient d'ailleurs s'assurer que l'enfant reçoive bien une instruction, parce que c'est fondamental. Après, il y a différentes méthodes, il y a différents modes. On peut aussi avoir des cours, être encadré par une institution. Il y a des cours que ce soit avec le CNED ou alors avec certaines autres écoles, je pense au cours Kirlan, par exemple, qui ont une très très bonne formule pour l'enseignement à domicile. Ce qui est surtout important de préciser pour ces enfants-là, parce que l'école à la maison, c'est une chose, mais c'est qu'une seule des réponses possibles pour ces enfants-là. Ce qui est important de préciser, c'est que ce soit dans le système scolaire ou alors en école à la maison, ces enfants-là ont une méthode d'apprentissage qui est tellement différente et qui fera apparaître à un certain moment des trous, et des trous très très importants, parce qu'ils se sont appropriés les choses différemment, ce qui leur causera d'importants préjudices à l'adolescence, parce qu'ils vont tellement loin sur certains raisonnements, mais parfois vont oublier les bases. Et ces bases-là, quand elles ne sont pas acquises, posent d'énormes difficultés à l'enfant, qui se retrouve en grande situation de souffrance, quand tout à coup, ce qu'il savait ou ce qu'il pensait savoir faire ne fonctionne plus.
Voilà, donc votre rôle aussi, c'est de prévenir justement fameuses périodes de trous. L'adolescence, rapidement, Fabrice Bach, pour les enfants précoces.
Alors, s'ils sont diagnostiqués comme Vincent tôt, je pense pas qu'il y ait de soucis spécifiques. Ça suffit de l'accompagner, d'être proche d'eux, d'être vigilant sur le plan des relations sentimentales. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement intellectualisé, rationalisé, et parfois c'est que de l'affect. Il faut pouvoir le resituer à ce moment-là. Maintenant, j'ai envie de dire aussi ce qui est très troublant, notamment à l'adolescence, c'est le fonctionnement de ces enfants où ils font tout à la dernière minute.
Pourquoi ?
Ah, mais à la dernière minute.
Non, parce que ça, c'est propre de l'ado quand même.
Oui, mais on le retrouve chez les adultes aussi.
Oui.
Ils ont une deadline sur un mois, la veille, ils vont s'y mettre. Et il y a une raison pour ça. C'est qu'à ce moment-là, enfin, ils prennent leur pied avec leur capacité intellectuelle. Enfin, ils vont focaliser leurs compétences en un temps très court. Ils vont produire des choses extraordinaires. D'où, quand on leur dit 3 semaines avant, tu t'y mets, ouais, bien sûr. Mais non.
Et donc, ils ne prendront pas plaisir et ils ne feront pas fonctionner la machine au maximum de son potentiel.
Quand on a une Ferrari dans la tête, ça ne sert à rien de la voir si on ne sait pas la conduire.
Bien sûr.
Et la clé, elle est là. Pouvoir leur permettre, pas simplement d'identifier les compétences, mais de leur permettre de s'en servir. Parce que dans l'avenir, il y aura quelque chose d'intéressant pour eux, que ce soit pour les enfants, les ados, les adultes. Dans les années 70, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Ouais.
Aujourd'hui, on se pose des questions, est-ce qu'on a plus de pétrole et plus d'idées, je crois. Sauf que ces enfants savent en produire spontanément. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant pour eux dans l'avenir. On va avoir besoin de personnes qui produisent des idées.
Vincent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?
Plus tard, moi, je veux faire médecin-chercheur contre le cancer du cerveau. C'est-à-dire, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche le médicament contre le cancer du cerveau.
D'accord. Tu viendras dans cette émission quand tu seras chercheur et puis je t'interviewerai. J'espère que je serai pas trop vieille. Je serai peut-être encore sur RTL et tout. Tu viendras?
Peut-être.
Me raconter ton métier et puis me raconter tes recherches. Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi?
Moi, en fait, je vois l'avenir comme une ligne qui va très loin, mais une ligne qui, selon comment tu te construis à l'enfance, descend ou monte. Entre guillemets.
D'accord. Donc ça veut dire que tu sais que tu vas rencontrer des périodes fastes, de réussite, et puis qu'en même temps, tu vas peut-être être confronté à des choses un peu impermanentes et des moments plus compliqués ?
Exactement.
D'accord. Donc ça, c'est un peu notre lot à tous. On est un peu tous comme ça.
Oui.
Oui. Et tu as envie de fonder une famille ? Tu as envie...
Ça, je sais pas.
Mais est-ce que tu en as envie ?
Oui.
On parlait des sentiments tout à l'heure.
Il faut déjà trouver la copine.
On est juste que tous les deux, maman. On n'est pas les deux. T'as une amoureuse?
J'en avais.
Ah, d'accord. Et c'est comme la vie en fait. Il y a des hauts et des bas. Et,
Exactement.
Donc en ce moment, t'es un petit garçon célibataire.
Bon, j'irai peut-être pas jusque-là.
Ah, d'accord. Donc on est entre les deux. D'accord, ok. Dis-moi, Vincent, tu me disais il y a un instant, moi j'aimerais bien aussi m'adresser à ceux qui nous écoutent. Alors, il y a peut-être des enfants aussi de ton âge qui ne vont pas à l'école en ce moment, qui se posent des questions, qui sont peut-être aussi comme toi. Et puis tu voulais t'adresser à eux, et puis tu voulais aussi t'adresser aux parents d'enfants précoces. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Quels sont les messages que tu veux faire passer?
Exactement. Le plus fondamental que j'ai, c'est que... l'enfant n'est pas handicapé. Il y a toujours un moyen d'avancer, en fait. Il y a toujours un moyen. Lorsque l'enfant déprime, vraiment, on est sûr qu'il y a toujours un moyen pour le faire remonter. Comme moi, avant, j'étais en train de déprimer, je me sentais vraiment mal. Je me disais, j'ai envie d'arrêter de vivre, quoi. Mais depuis que j'ai compris, en fait, que c'est pas un handicap et que c'est vraiment quelque chose qui apporte juste quelques désavantages, mais beaucoup d'avantages. J'ai vraiment monté les escaliers vers ce qui s'appelle vraiment vivre une vie, quoi.
Julie, rapidement, s'il vous plaît.
J'aimerais surtout dire que ces enfants-là, il faut jamais les laisser en souffrance. Quand un enfant ne va pas bien, il faut s'en occuper et il faut jamais accepter le constat des enseignants ou de l'entourage qui dit de laisser faire. C'est une fausse solution, ça ne sert à rien et la souffrance sera là. Deviendra plus importante, s'étoffera et c'est pas une solution.
On se retrouve dans un instant, on va être obligé de se dire au revoir. Bah oui, c'est comme ça.
Ah bah oui.
Eh bah oui, à tout de suite.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. RTL. Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Fabrice Bach, nous nous sommes intéressés aujourd'hui aux enfants précoces. Il est des adultes aussi précoces, parfois qui n'ont jamais été d'ailleurs diagnostiqués. Et il est jamais trop tard.
Jamais, pour un moment donné se poser des questions, aller explorer cette piste-là, qui chez nous en France est trop fréquemment négligée. Quand on, souvent au détour d'une émission radio, d'une émission télé, d'un ouvrage, on peut se questionner. Ne pas hésiter à aller creuser cette question. Parce qu'effectivement, parfois, c'est pas anodin. On peut découvrir certaines parts de sa personnalité et enfin réussir à se réharmoniser intérieurement.
Et d'ailleurs, on le lit dans votre ouvrage « À la recherche de son identité, la précocité dans tous ses états ». C'est aux éditions L'Harmattan. Fabrice Bach, merci d'être venu.
Merci.
C'était très agréable de faire la connaissance de Vincent aussi. Vous allez pouvoir reprendre vos tours de magie puisque vous étiez venu avec vos cartes. Je ne savais pas que vous étiez non seulement psychologue, mais en plus magicien.
Aussi.
Vincent, merci beaucoup.
Ah bah de rien, tout l'honneur est pour moi.
Écoute, tout le plaisir était pour moi, tu vois. Et j'espère que tu seras à notre écoute. Demain, on va faire une émission très intéressante sur le mensonge, je vais en parler dans un instant. Julie, merci beaucoup d'être venue. Et puis vous embrasserez aussi, toi, tu as un grand frère, hein, c'est ça
Un
petit frère. Et vous embrasserez le petit frère de Vincent.
Avec grand plaisir.
Salut Vincent, prochaine. Allez, demain tu m'écoutes parce que je vais recevoir la psychothérapeute Marie-Lise Labonté et Marouane Méry, qui est expert en négociation et en détection du mensonge. mensonge. Et oui, c'est du mensonge dont nous allons parler. Pourquoi tout le monde ment à des degrés différents, évidemment. Est-il possible de détecter le mensonge? Si vous jurez de dire toute la vérité et rien que la vérité, je vous invite à appeler le 3210, à demain 15h en direct sur RTL. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Philippe Bouvard et des Grosses Têtes qui vous promettent aujourd'hui du rire avec Pascal Légitimus. À demain, merci pour votre fidélité.